Bien, écoutez, bonjour à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas saluées, mais voilà, on le renouvelle, c'est pas grave. Nous allons commencer cette table ronde sur l'artisanat d'art, plus spécialement, hein, puisque finalement, au vu des contacts, c'est plutôt sur ce thème-là que notre table ronde va porter. Donc je vais appeler tout d'abord Cécile Luxeau et Florian Rubata, je m'excuse pour la prononciation des noms peut-être, pour leur laisser le soin de nous présenter... Alors un Fab Lab, mais peut-être l'environnement aussi, puisque ça se situe dans un coin de France qui est tout à fait charmant, l'Ardèche méridionale, mais peut-être pas facile à se déplacer. Donc venez, prenez place, et puis je vous laisse vous présenter l'action que vous menez dans ce joli coin de France, et puis ensuite, s'il y a quelques questions qui surgissent, on les prendra, puis ensuite on enchaînera.
Bonjour, donc Cécile Luxeau, je travaille au pays de l'Ardèche méridionale avec Florian Rubata, qui est une collectivité territoriale située en Ardèche du Sud. Et donc, on va vous parler de l'expérience qu'on mène en ce moment, du projet qu'on conduit qui s'appelle Polino et qui est un pôle d'innovation dédié aux métiers d'art sur le territoire. Juste pour vous resituer. L'Ardèche, donc on est sur la partie sud-est de la France, sur les flancs de la vallée du Rhône, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, et c'est un territoire assez touristique, surtout pour ce qui concerne le sud des départements, sur lequel nous travaillons. Donc le cercle représente ce territoire qui est connu pour, en effet, les gorges de l'Ardèche, les activités touristiques de canoë et kayak, mais aussi aujourd'hui pour la grotte Chauvet, qui est donc une grotte ornée très ancienne, la plus ancienne connue à ce jour, qui a été découverte à Vallon-Pont-d'Arc, donc ça ne suffisait pas les kayaks maintenant. Mais alors ça a été l'occasion de développer du tourisme culturel, ce qui était totalement bienvenu, et ça a vraiment obligé le territoire à se re-questionner sur ces questions. Donc depuis toujours, c'est un territoire qui attire les artistes. La grotte ornée en est un exemple. Mais on constate depuis plusieurs décennies que c'est une terre d'inspiration. On est sur une conjonction incroyable de différentes roches, que ce soit roches volcaniques, puisqu'on est à la fin du Massif central, que le calcaire avec les gorges de l'Ardèche, du grès. Enfin, du coup, c'est vraiment un territoire très inspirant. Beaucoup des artistes qui y vivent nous disent qu'ils sont très inspirés par le cadre de vie. Et donc, ils sont très attachés au territoire. Et puis, depuis une quinzaine d'années que les élus ont souhaité travailler sur cette thématique, on peut dire qu'aujourd'hui, ça attire de nouveaux artisans d'art. Et donc, un effet boule de neige. Alors, juste pour préciser, dans les métiers d'art, on y reviendra, mais dans les métiers d'art, il y a plusieurs types de métiers. On les classe en trois parties, les métiers de la restauration, du patrimoine, et puis le métier de la création. Et nous, on est complètement dans la création. Très très rares sont les restaurateurs ou personnes qui travaillent sur le patrimoine. Donc on l'a dit, c'est aussi un territoire du coup qui aujourd'hui est façonné par les artistes, parce qu'ils sont nombreux. On est sur plus de 350 entreprises, ce sont des entreprises qui sont sur ce territoire qui comporte 140 000 habitants. Donc on est dans un secteur extrêmement rural. Il n'y a pas de ville. Enfin, la petite ville, c'est 12 000 habitants, Aubenas. Donc voilà. Et donc ces personnes sont souvent installées en arrière-pays, dans des secteurs isolés. Du coup, ils contribuent à maintenir la vie dans ces territoires un peu reculés. Souvent, ils sont très attachés au territoire, donc ils s'y investissent beaucoup. Y compris dans la vie municipale, enfin voilà. Et puis, ils ont contribué aussi à apporter une vie culturelle en organisant des expos, puisque maintenant, ils sont beaucoup regroupés en associations, en organisant des expositions, en proposant des activités en lien avec l'éducation artistique et culturelle, etc. Et puis, c'est important pour les élus aussi de s'être intéressés à cette filière, parce que ce sont des activités qui ne sont pas délocalisables et qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. D'autant plus que les créateurs qui sont installés sont vraiment devenus des ambassadeurs du territoire et ils sont vraiment fortement attachés. Donc pour la collectivité que nous sommes et pour nos élus, c'était intéressant de s'intéresser à cette thématique parce qu'elle concerne autant la culture que l'économie et notamment l'économie touristique. Et on va le voir, nos élus ils ont choisi d'aborder les métiers d'art sous l'angle économique en voulant les soutenir pour que leur démarrage d'activité, vu qu'on a une pépinière d'entreprise, puisse être soutenu, que l'organisation d'initiatives collectives puisse être soutenue, etc. Je reviens deux secondes sur la définition des métiers d'art, mais c'est peut-être nécessaire pour tout le monde. Donc deux secondes. Un professionnel des métiers d'art, puisque nous on s'est intéressé à cette filière, il a fallu aller chercher ce qu'était la définition. Il y en a une qui est officielle, c'est l'État qui s'en est chargé. Un professionnel, il met en œuvre des savoir-faire qui sont complexes. Et on dit souvent qu'un savoir-faire, enfin Floriane nous en parlera, un savoir-faire met parfois 10 ans avant d'être maîtrisé. Il s'agit de transformer de la matière pour en faire des objets, souvent des pièces uniques, à dimension artistique, et cette transformation de la matière est particulièrement nécessite de la rigueur et beaucoup d'aller-retour. Donc ils produisent, une fois qu'ils savent transformer cette matière, des objets uniques ou des petites séries, en autre grosse caractéristique à caractère artistique. Et donc ce qui caractérise ce métier aussi, c'est la maîtrise dans la globalité de tout le processus de fabrication. C'est ce qui en fait aussi une activité non délocalisable, enfin pas facile à délocaliser. Donc sur l'Ardèche méridionale, on est dans les métiers de la création, ce que je vous disais, pas spécialement de restauration de patrimoine, et beaucoup de métiers sont représentés. On ne part pas d'une tradition particulière, d'un savoir-faire qui est lié à l'Ardèche méridionale, pas du tout. Les personnes sont venues vivre, habiter, se sont investies en Ardèche il y a 20 ans, 10 ans, puis jusqu'à aujourd'hui, chaque jour. Et donc, ce sont des métiers très, très, très divers. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de verriers parce qu'on a pu travailler avec l'école du verre, le CERFAV, à côté de Nancy, de manière à ce que notre pépinière puisse recevoir des verriers régulièrement. Donc, voilà, mais beaucoup de céramistes, comme partout, des vanniers, enfin. Et donc 350 à peu près. Donc les élus de ce territoire ont souhaité travailler sur la mise en place d'une politique publique. Donc ça a démarré avec la création d'une pépinière d'entreprise, elle s'appelle Pépitar. Ça va être le socle de notre futur projet d'innovation. Donc quand on veut mettre en place ensuite quelque chose d'un peu plus structuré qu'une pépinière, aller plus loin, on passe par un bureau d'études qui nous fait un joli schéma de développement économique des métiers d'art, qui décline des préconisations en termes d'action, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, les élus ont souhaité dédier une ligne de financement pour le développement de la filière, pour soutenir des initiatives collectives notamment. Là, on avait le soutien direct de la région à l'époque. Et puis ensuite, quand on a voulu aller encore plus loin et qu'on a voulu aller sur cette notion d'innovation, on va revenir dessus ensuite, on a de nouveau fait une étude de faisabilité pour voir ce qu'il était nécessaire de faire, comment le faire, etc. On est passé à une étape de recherche de financement qui continue et qui nous occupe beaucoup. Et puis surtout, par des actions de préfiguration, c'est-à-dire que pour nous, c'était important d'essayer des choses, voir comment ça répondait côté professionnel, voir comment ça pouvait s'organiser, de quelles compétences on avait besoin et tout ça. Du coup, on a fait diverses actions de préfiguration, une par an en général pendant les journées européennes des métiers d'art qui ont lieu au début du printemps. Donc un Fab Lab éphémère, une semaine de coopération artistique où des professionnels venaient bosser à plusieurs sur ce qu'ils voulaient. Pas de contraintes, rien du tout. Ils arrivaient avec des bouts de bois, des pièces inachevées, des choses comme ça. Et puis ils démarraient une aventure ensemble pendant une semaine et à la fin ils ont fait une expo des pièces avec ces savoir-faire conjugués. On a fait cette année une semaine... Alors, maintenant que Florian est là, on a enfin des machines à commande numérique et on a pu bosser avec eux sur la création, sur la notion d'écrin. Donc on est sur le, dit autrement, sur l'emballage, enfin le packaging, et de manière à sortir du packaging qu'on commande par 100 000 en Chine, des sacs hein, tout simplement. Des choses comme ça, on a travaillé sur cette notion d'écrin qui soit complètement sur mesure, adapté, signé, gravé, etc. avec les outils numériques. Voilà, c'est pour amener l'outil numérique dans le quotidien.
Sur les à côté du métier, du coup. Les à côté qui sont indispensables, notamment, là on parlait d'écrin, mais on introduit tout de suite la notion de protection, finalement, parce que les gens viennent acheter une pièce et on a besoin... d'un packaging qui soit là pour protéger la pièce, après pour le transport, mais aussi qui puisse mettre en valeur l'œuvre et le métier de l'artisan. Du coup, on aborde déjà l'introduction, on va dire, de ces nouvelles technologies et puis des innovations plutôt transversalement et pour essayer d'amener petit à petit ces nouvelles technologies dans le quotidien des métiers d'art. Sans forcément, et surtout en évitant et en éloignant les craintes de la machine, finalement, que la machine vienne s'ingérer dans le travail des métiers d'art.
Donc, avec ces expériences-là, on s'est dit que... Alors, le pôle d'innovation vers quoi on tend nécessite... une construction pour agrandir la pépinière, mais on a senti des besoins et puis surtout on avait suscité des envies, donc on a installé un Fab Lab un peu improvisé dans les locaux de la pépinière et donc en 2019, et aujourd'hui il a pu commencer sa vie quoi. Donc voilà, on va voir qu'il y a des bons retours et puis on attend pour 2020 nos travaux d'agrandissement. Ça c'est pour la chronologie des faits. Maintenant, la question de pourquoi on en est venu à travailler sur l'innovation avec les métiers d'art peut-être peut se traiter à travers l'exemple d'un artiste verrier que Florian connaît visiblement. Donc, Antoine Brodin, il a été résident de notre pépinière, pépinière classique où on accompagne les jeunes créateurs. Il a reçu un prix important l'année dernière, c'est le prix L'œuvre du syndicat des ateliers d'art de France. Donc lui, ses besoins, il sortait forcément de ce qu'il est possible de faire dans son atelier, qui pourtant est grand, parce qu'à la sortie de la pépinière, il a pu intégrer une ancienne école, donc dans un petit village pas loin de la pépinière. Mais lui, il a besoin d'autre chose que de son atelier, parce qu'il a besoin de travailler avec des collègues, parce qu'il a besoin de travailler avec des collègues qui font d'autres métiers pour pouvoir répondre notamment à de la commande publique ou du monumental, etc., ou se lancer dans un projet collectif qui vient de lui et de ses collègues. Il a besoin de réaliser des prototypes et là il n'a pas du tout les machines nécessaires pour faire du prototypage rapide. Il a besoin d'utiliser des outils numériques qu'il n'a pas les moyens de s'acheter, évidemment, malgré le prix, l'œuvre, c'est pas la grande richesse non plus. Donc d'utiliser des outils numériques au quotidien comme la découpe laser, imprimer une pièce en 3D, etc.
Et des outils numériques qu'il connaît puisqu'ils sont d'ores et déjà intégrés dans les écoles d'art. Via des Fab Labs ou en tout cas des ateliers numériques qu'on trouve au sein des écoles maintenant. Donc les jeunes n'ont pas l'appréhension finalement du numérique, fait partie, tout comme l'outil informatique, de leur quotidien.
Alors là, on voit une scission en effet entre l'ancienne génération et la nouvelle qui n'appréhende pas du tout les choses de la même manière. Du coup, quand ils débarquent en Sud-Ardèche, Antoine et sa compagne Célia, qui est aussi verrier, ils cherchent le Fab Lab. Donc voilà. Pour faire de l'emballage sur mesure, c'est ce que Florian évoquait. Et puis on apporte aussi un conseil, un accompagnement parfois vers, vers pour la constitution de dossiers pour candidater à des expos. On organise des formations, donc ils peuvent totalement en bénéficier. Enfin, voilà. C'est tout cela que le lieu se proposait d'offrir et de conjuguer. Donc aujourd'hui, je reviens sur ce qu'est la pépinière aujourd'hui et comment elle va évoluer du coup concrètement. On a donc, c'est une petite pépinière, on a 3 ateliers où on reçoit des professionnels pour 3 ans. Elle existe depuis longtemps, 13 ans. On a donc accueilli 17 professionnels des métiers d'art, PMA. Alors la collectivité investit pour qu'ils restent sur le territoire et ça tombe bien parce qu'on a un taux d'implantation, c'est un peu... pas très bien dit, mais de 81%. Bon, voilà. Mais on a quelques personnes qui ont dû partir du territoire, ont voulu partir du territoire. Et des activités qui sont pérennisées aujourd'hui, qui n'ont pas toujours... qui rencontrent des difficultés économiques, hein, mais je crois qu'il y a un attachement au métier qui est très fort, des métiers qui n'ont pas été choisis pour rien, ni par hasard. Et donc, voilà, il y a l'envie de perdurer. C'est vraiment des personnes qui sont et fidèles au territoire et à leur métier. C'est pour ça que c'est intéressant pour les élus. Et puis, quelques talents reconnus internationalement. Donc, ça, c'est bien. En termes d'accompagnement, donc, une aide à la commercialisation, formation en scénographie, accompagnement à la gestion compta, et puis l'intégration des réseaux locaux qui sont nombreux. Et puis, comme on vous l'a dit, c'est aussi un lieu d'expérimentation, cette pépinière, puisque c'est là qu'on a mené nos actions de préfiguration, qu'on vous a cité tout à l'heure. Tu veux prendre la suite ?
Oui, pour la suite, Cécile et les décideurs locaux se sont projetés sur un pôle d'innovation. Un pôle d'innovation des métiers d'art, pour l'accompagnement des métiers d'art, avec en premier lieu déjà une forte ambition avec l'extension de 3 ateliers vers 6 ateliers. Donc 6 ateliers d'art à venir occuper. Un espace de résidence et de coopération artistique va être mis en place. Donc c'est un lieu finalement où les artisans et les artistes vont pouvoir se regrouper pour venir travailler peut-être avec un autre artisan qui travaille peut-être une autre matière pour répondre à une commande spécifique. En tout cas, un lieu qui sera équipé pour recevoir des machines, équipé pour recevoir sur du court ou moyen terme des activités qui vont permettre de pouvoir faire de la coopération. Un espace dédié à la formation, mais ça c'est déjà en place. Cécile met en place des formations qui sont dédiées vraiment à la spécificité des métiers d'art. Va être mise en place une artothèque, donc une artothèque pour venir mettre des œuvres à la location, en exposition location. Un espace de coworking, donc là on est là une fois de plus pour croiser les publics sur ce lieu. Et faire venir des entrepreneurs ou des gens qui cherchent un espace pour lancer une nouvelle activité. Et bien sûr, le Fab Lab, donc le Fab Lab qui est un espace ouvert à tous les publics qui va permettre de faire venir tous les passionnés, les professionnels qui ont besoin de prototyper, d'accéder à du matériel numérique et d'accéder aussi surtout à une communauté de passionnés qui va pouvoir leur permettre d'embrayer et d'accéder facilement à ces nouveaux outils. Du coup, le Fab Lab, un petit rappel, c'est un atelier qui est vraiment ouvert à tous, donc des enfants, aux professionnels, aux passionnés, aux retraités passionnés souvent. qui met à la disposition en fait de tous ces publics des machines à commande numérique, que ce soit des imprimantes 3D, des découpeuses graveuses laser, des fraiseuses à commande numérique. L'objectif du Fab Lab, c'est bien sûr de permettre la rencontre des publics, qui va créer une vraie richesse, et de concentrer en fait les savoir-faire du territoire en un même lieu, de favoriser la coopération, puisqu'on sait aujourd'hui que l'émergence de l'innovation vient souvent du croisement des publics. Et de tout ça découle aussi des enjeux sociaux et sociétaux sur le fait qu'on partage les savoir-faire, qu'on donne accès à du contenu libre, à des savoir-faire libres. Je parle ici de logiciels libres, de savoir de réparation, de savoir-faire manuel. Et tout ça aussi dans l'objectif de servir, bien sûr, de porter l'activité métier d'art aussi dans cette rencontre des publics et des passionnés de l'outil. Puisque finalement, le Fab Lab, c'est un outil coopératif.
Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on viendra y faire ? On vient y démarrer son activité quand on est un résident de la pépinière. On participe à des événementiels collectifs en fonction de ce que on est amené à organiser, comme voilà, Fab Lab éphémère, etc. On vient réaliser des prototypes, fabriquer des moules, des gabarits pour préfigurer des futurs objets. On vient fabriquer des éléments de scénographie sur mesure, de décor, de présentation de la signalétique, des emballages. On est vraiment sur des outils très périphériques. On vient concevoir un produit en 3D, utiliser les logiciels, apprendre à utiliser les logiciels nécessaires, rencontrer le croisement des publics, designers, architectes, codeurs, et du coup les rencontres comme celles que vous pouvez organiser peuvent être reproduites dans ce cadre-là. Enfin, c'est certainement la bonne manière de faire que se croiser des personnes sur des thèmes, mutualiser des outils. Alors, on s'est dit que ce lieu, il devait pouvoir accueillir des machines qui sont un peu rares ou qui sont un peu chères ou qui sont beaucoup trop grosses. Et du coup, on est à l'affût de professionnels qui se débarrasseraient, pour pas très cher, de matériel, dont ils n'ont pas suffisamment l'usage pour qu'on puisse mutualiser des choses comme ça. Florian chine et de manière à récupérer des machines. On a en stock en attendant l'ouverture une croûteuse géante pour les céramistes. Enfin, voilà, un massicot géant aussi. Enfin, bon, bref, des choses.
Des choses en fait qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui seraient bien pratiques pour gagner du temps de temps en temps ou pour un projet spécifique. Et finalement, on est là pour mutualiser des outils qu'individuellement on ne pourrait pas se payer, mais qui nous arrangerait bien de temps en temps.
Se former, on a dit, puisqu'on organise des formations vraiment spécifiques sur les métiers d'art. On peut venir faire des interventions sur son métier, puisqu'il y aura un espace dédié à ça. Et puis, on a souhaité aussi créer un studio photo pour la prise de vue, puisque c'est souvent une chose difficile à maîtriser et qui est hyper...
Importante,
surtout quand on commercialise en ligne. Donc, on va être doté là dans un mois ou deux de tout le nécessaire pour un studio photo. Travailler en collectif pour répondre à une commande, notamment une commande publique. Sur notre territoire, c'est créé à l'initiative de professionnels une agence dont le rôle est de chercher des marchés et construire des offres. C'est l'Agence pour le développement des métiers d'art. Elle a un commercial intégré qui sillonne le territoire comme les commerciaux et qui rencontre les élus, donc mairies, communautés de communes, mais tout type de structures publiques, mais aussi les entreprises, les plus grandes. Il n'y en a pas beaucoup, pour proposer l'offre des métiers d'art. Pour par exemple une fresque dans un village ou du mobilier.
L'aménagement urbain.
Voilà, ça. Et puis aussi susciter des projets, proposer des offres. On a l'année dernière travaillé avec cette agence qui est associative, avec un musée, le musée des Vents, qui est situé sur la versant Cévenol, pour créer des objets dérivés des collections du musée. Et donc, eux, ils n'avaient pas de boutique. C'est un tout petit musée sans boutique. Ils voulaient créer la boutique, mais avec des objets faits par les métiers d'art. Et donc, on les a accompagnés dans la création de ces... Alors, avec recours au Fab Lab pour certaines étapes de réalisation.
Pour permettre de gagner un petit peu en rentabilité, de pouvoir proposer des, voilà, des objets à prix accessible quand même au public. Plus accessible, en tout cas, en sortie de musée.
Et ensuite, voilà, on pense aussi accompagner vers l'innovation au travail de coaching participatif. Alors ça, c'est pas encore en place. Mais l'idée, c'est d'accompagner un projet un peu innovant, enfin, qui sort des sentiers battus pour un professionnel, mais que d'autres professionnels des métiers d'art viennent participer, parce qu'on ferait intervenir un spécialiste de la question. Comme l'année dernière, on a travaillé avec un spécialiste des boutiques de musées. Bon, ben voilà, un spécialiste de la question sur laquelle se lance le professionnel. Les autres viennent dialoguer, enrichir, partager, etc. Et on aimerait travailler sur ce mode-là, mais c'est pas encore mis en place. Mais voilà. Donc voilà l'ensemble des choses qu'on pourra faire dans ce lieu. Et puis pour terminer, donc en résumé, on va dire que c'est avant tout un outil d'innovation pour le territoire, avec la question de ce croisement des publics qui est pour nous vraiment très important, même si on reste sur une cœur de cible métier d'art, c'est quand même eux qui sont les plus concernés. D'ailleurs, dans notre grille tarifaire, ils ont moitié prix. On vient de le faire valider par nos élus, donc c'est que la question a été acceptée et de toute façon enfin, conditionne le projet. Et puis dans ce virage du numérique qu'on prend tous, essayer dans l'idée de l'aborder en douceur et plutôt que de le subir. Et c'est vraiment sur cette question-là qu'on avance chaque jour. Après, c'est vrai que c'est un projet qui rayonne à l'échelle nationale, notamment parce qu'on est un territoire rural et que ça se fait pas partout en territoire rural, mais aussi parce que vraiment on démarre des métiers d'art et on imbrique ensuite de l'innovation. Voilà, avec ce souci d'accompagner sur mesure les professionnels des métiers d'art. Du coup, est-ce que les métiers d'art contribuent à la créativité du territoire? Le pari, c'est qu'en multipliant les activités artistiques comme ils peuvent le faire finalement, puisqu'ils sont force de proposition et que l'agence pour le développement leur permet d'avoir accès à des marchés, y compris dans l'éducation artistique et culturelle, que l'ensemble de la population soit de plus en plus sensible à l'art et de fait à la créativité. Donc en rendant la population plus créative, le territoire avance beaucoup. Après, ça signifie que le territoire est audacieux, s'aventure sur des sentiers un peu pas habituels, mettre des moyens en ingénierie, sinon on fait des coquilles vides, et puis qu'on croise les publics.
C'est parfait.
Merci en tous les cas pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Voilà. N'hésitez pas.
On a un petit film d'une minute après.
Ouais. Et une question, je crois. Vous présentez en même temps puisqu'on enregistre.
Bonjour, moi je suis productrice d'artistes, mais plutôt dans le cadre de la musique, du spectacle vivant. Donc je travaille beaucoup dans les croisements des disciplines. Donc je viens aujourd'hui pour écouter effectivement toutes ces initiatives. Je suis ravie d'entendre tout ça, puis bravo, parce que je pense que c'est une super démarche dans votre région. Ma question est la suivante. Est-ce que, enfin, vous parlez de croisement des publics, est-ce que ça dépasse le public des passionnés? Quel public vient vous voir? Enfin, quel croisement de public vous êtes en mesure de parler aujourd'hui? Parce que c'est un petit peu, voilà, c'est, moi en tout cas, c'est vraiment le cœur de ma question. Merci.
Les croisements de public, en fait, on touche tous les publics, que ce soit le grand public qui vient s'initier ou découvrir les nouvelles technologies, que ce soit de l'électronique numérique ou, comme je disais, la réparation d'un petit matériel ou via l'impression 3D, la découverte de l'infographie 3D, etc. Donc là, on est plutôt dans de la médiation numérique vers le grand public. On a les professionnels qui viennent donc du territoire, qui viennent découvrir et utiliser le matériel, que ce soit une découpeuse laser ou une fraiseuse à commande numérique, pour un petit projet ou pour un prototypage. Et ensuite, on a les métiers d'art, les créatifs qui découvrent un lieu comme ça, qui se disent: tiens, là-dedans, il y a des bricoleurs. Moi, je suis musicien. J'ai pensé à un orgue laser, je ne sais pas quoi. Et est-ce que quelqu'un va pouvoir m'accompagner? Donc là, on se tourne vers la communauté des passionnés du Fab Lab, où on va trouver là des passionnés, des ingénieurs à la retraite, des jeunes créatifs. Qui sont là, qui forment un peu cette communauté et cette concentration de savoir-faire sur le lieu, et qui vont pouvoir apporter des réponses tout naturellement au gré de leur passage, où nous, on peut rediriger vers ces passionnés ou ces professionnels spécifiques. Et donc, je pense qu'on croise tous les publics, vraiment.
On a découvert un public, Florian s'y attendait un peu, mais c'est assez intéressant. Ce sont des jeunes proches du décrochage scolaire. Alors, juste à proximité, on a une école alternative. Vous connaissez Pierre Rabhi, peut-être.
Oui.
Voilà. Donc, sa fille a monté une école, collège, je ne sais plus. Donc, on a déjà une population qui vient de la France entière pour cet enseignement. Ouais, on a retrouvé un très jeune public proche du décrochage avec des parents hyper désemparés. Et on a l'impression que ces outils vont permettre d'autres manières d'apprendre, de se détourner des sentiers trop classiques qui ne fonctionnent pas dans l'éducation nationale. Et voilà, on accueille, mais voilà.
On accueille.
La ferme des enfants, je crois.
Ce qui peut être intéressant aussi d'interroger, peut-être, c'est, en fait, vous renversez un peu la table, si j'ose dire, dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il y a la fonction métropolitaine, on le voit bien, qui aspire, etc. Et là, en fait, vous créez une polarité créative dans une périphérie. Ce qui sera intéressant d'observer, c'est comment ça va fonctionner à partir de là. Mais c'est intéressant.
Surtout qu'il y a une attente des parents qui, souvent... jeunes parents viennent un peu en Ardèche se retirer de la ville pour élever leurs enfants dans des conditions qui leur tiennent à cœur. Et très rapidement, donc des enfants, là on en parlait de ce type d'enfants très curieux qui ont besoin d'être nourris intellectuellement vraiment abondamment. Et petit à petit, très rapidement, ils ont fait le tour du territoire, ils ont dévoré tous les livres de la médiathèque, etc. Ils ont besoin d'aller plus loin. Moi, aujourd'hui, je vois des enfants qui voient plein de choses sur Internet, très créatives, qui ne savent pas comment les mettre en œuvre, qui ne savent pas comment être accompagnés. Et donc là, le Fab Lab prend le relais et les accompagne sur tous ces nouveaux savoir-faire qui sont en train d'émerger, on va dire, dans les collèges, mais qui ne sont pas forcément en place. C'est des technologies qui ont des fois moins de 10 ans. Et donc voilà, il y a des équipes de passionnés qui seront là pour les accompagner. Voilà.
Ok.
Je voudrais Oui, Christine Dion de l'Espace Mendès France. Moi, je voudrais savoir connaître un peu le lien entre qui peut se créer entre les artisans qui n'ont pas de label d'art, mais qui déjà font des œuvres assez intéressantes. Comment ça se nourrit, artisan d'art, artisan tout court? Et puis, est-ce que les jeunes des CFA aussi sont un public qui vient aussi vers votre lieu et qui peut susciter des vocations en termes de créativité?
On vient de loin parce qu'il n'y a pas trop de quoi se former dans les métiers d'art chez nous. Pardon. Par contre, on a un lycée technique sur la ville d'Aubenas avec lequel on a imaginé des ponts il y a 2 ans qu'il faudra qu'on réactive voilà, une fois que ça sera prêt puisqu'on a encore cette construction à passer. Mais on a bossé avec des jeunes en CAP ébénisterie et travail du verre, enfin, verre à plat, miroiterie et métallerie sur la création de socles pour les œuvres des résidents, des résidentes de la pépinière. Voilà, ça a été une aventure intéressante hein, parce qu'il nous a fallu nous accoutumer avec les fonctionnements d'un lycée qui voilà, une administration lourde, etc., une forme de lenteur. Alors nous, on était un peu lent, mais... Et enfin voilà, c'était super intéressant et je pense qu'on va essayer de recréer des liens et puis susciter des vocations. Donc dans leur cas, elles étaient à peu près déjà suscitées puisqu'ils étaient déjà dans une filière. Enfin, il y en a quand même qui ne savaient pas du tout ce qu'ils y faisaient. Mais... Et par contre, on se rapproche des collèges et là, il va falloir... Enfin, on voit que les enseignants en techno... sont intéressés, démarrent des choses entre midi et deux au collège, des ateliers un peu bidouilles, etc. Et on voit bien qu'on va être un support intéressant. Voilà.
Merci. Je vous propose peut-être de regagner l'assistance, mais vous restez parmi nous, donc vous pourrez répondre à toutes les questions qui pourront se poser. Donc je vais appeler Marie-Laure Massieu et Clément Joquet de nous rejoindre et de nous présenter l'atelier des créateurs et leur vision, justement, de la création artisanale d'art.
Marie-Laure Massieu, j'ai lancé une marketplace qui s'appelle l'Atelier des créateurs en 2017 suite à des discussions avec des amis qui créent des choses et qui ne savaient pas se vendre et problème de stockage, problème de temps. Comme je suis du web marketing, j'ai travaillé pendant 10 ans à faire du conseil et de la génération de trafic pour des sites internet. Je me suis dit que je pouvais mettre à disposition mon savoir-faire pour les créateurs qui donc, eux, n'ont pas le temps de se promouvoir en ligne, n'ont pas les compétences souvent et puis c'est pas leur, ce ne sont pas leur, on va dire leur domaine de prédilection puisque un créateur plutôt manuel généralement que derrière un écran d'ordinateur. Donc l'idée c'est de promouvoir le savoir-faire et l'excellence des créateurs, des artisans d'art à travers une marketplace internationale. Quand je dis internationale, c'est qu'aujourd'hui le site il est traduit en français et que sur internet il n'y a pas de frontières, donc ça permet de pouvoir valoriser les savoir-faire français en Europe ou à l'étranger. Aujourd'hui on a déjà des ventes en Europe et suite à des événements on commence à avoir une petite visibilité aux États-Unis par exemple. Donc, l'Atelier des créateurs, c'est une plateforme dédiée aux créateurs 100% fait main, enfin aux pièces d'art 100% fait main ou en série limitée. L'objectif est d'apporter de la visibilité en ligne et de valoriser les créateurs sur différents supports de communication, puisque on a une plateforme qui permet de vendre leurs pièces sur Internet, mais on diffuse aussi énormément sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, des newsletters, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, petite présentation de l'équipe, donc moi. J'ai un associé, Wilfried, qui n'est pas présent aujourd'hui, et Clémence, je te laisse te présenter, du coup.
Oui, je m'occupe du développement commercial et des partenariats, du recrutement des créateurs et d'autres types de partenariats, justement, aussi parfois physiques, puisque comme on est une marketplace, il y a quand même aussi des choses à faire avec des lieux, qu'ils soient éphémères ou pas.
Très bien, merci.
Je t'en prie.
Donc, quelques chiffres aujourd'hui sur la marketplace. On a une centaine de créateurs qui sont réunis sur l'atelier des créateurs et l'atelier des bijoux, parce que j'ai lancé en mars 2019 un autre site qui s'appelle l'atelier des bijoux, suite à beaucoup de demandes de créateurs de bijoux. Voilà. On a plus de 16 000 abonnés sur Instagram, 10 000 sur Facebook. L'année dernière, j'ai organisé à peu près 6 événements physiques, c'est-à-dire pop-up store, boutique éphémère, salon. On a de plus en plus de demandes pour rejoindre la plateforme, puisque depuis le début de l'année, j'ai eu à peu près 7 à 8 000 demandes de créateurs pour rejoindre le site internet. Je ne prends pas tout le monde, il y a une sélection qui est faite, puisque même si je ne demande pas à ce que les créateurs soient enregistrés au métier d'art de France ou au métier d'art ou autre, j'essaie quand même d'avoir une sélection qualitative et de proposer une offre unique. Il existe aujourd'hui sur le marché une bonne quarantaine de plateformes qui promeut le savoir-faire, le fait main, etc. Mais souvent, c'est très varié comme sélection, c'est-à-dire qu'on va trouver autant du vêtement que de la déco, la mercerie ou des choses comme ça. Et donc, quand le public il arrive sur un site comme ça, il est un peu perdu. Et ceux qui font des choses qualitatives se retrouvent un peu perdus dans la masse à côté de ceux qui font du tricot, par exemple. Enfin, bien que le tricot, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, les retours qu'on a aujourd'hui sur les créateurs qui nous rejoignent, c'est justement le fait de pouvoir avoir une offre sélective et de proposer des produits de qualité. Et donc de cibler aussi derrière un public qui va acheter ces pièces-là, qui va avoir les moyens d'acheter une pièce un peu unique, quoi, et de qualité. Je me répète un petit peu, mais bon. Donc là, le constat avant de lancer le site, ça a été qu'effectivement, la grande majorité des créateurs n'ont pas de site marchand, ni les temps ni les compétences pour s'en occuper. Donc souvent, ils ont une page Facebook, un compte Instagram, peut-être un blog, mais derrière, l'acte d'achat s'arrête totalement à ça, puisque les gens, maintenant, ils aiment bien avoir tout de suite. Donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner là-dessus. Donc la marketplace, c'est un système de paiement sécurisé qui permet de faire des transactions. Toute cette partie technique est très réglementée en France et gérée donc par notre part. Donc, comme je disais tout à l'heure, la plupart des plateformes regroupent des créateurs de différents univers et de qualités. Donc nous, on essaye justement d'avoir une offre sélective. Les créateurs ont manque de visibilité en France, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marchés de créateurs physiques, de pop-up store, enfin on voit ce genre de choses émerger depuis quelques années, et souvent quand les gens ils trouvent une pièce intéressante, ils ne savent pas où les retrouver derrière. Donc le retour du public aussi, c'est de dire nous on veut peut-être mettre un peu plus d'argent maintenant dans une pièce qui est fabriquée en France et qui est de qualité, mais où est-ce qu'on les trouve, ces gens-là? Voilà, l'objectif, c'était de pouvoir réunir un maximum de talents pour les rendre accessibles au public. Bon, le marché de la création, bon là je suis rentrée dans les chiffres, c'est plus pour montrer le potentiel qu'il y a aujourd'hui et le nombre justement de créateurs qui existent en France. et le marché de la déco sur Internet qui est en train d'exploser, puisque les paniers moyens sont quand même de 500 euros par Français. Il y a une croissance du marché qui est pas négligeable, et c'est un secteur qui atteint à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc il y a une réelle demande, et les gens sont moins timides pour acheter sur Internet aujourd'hui qu'avant, ce qui est un peu le but aujourd'hui en étant sur ce genre de support, c'est de dire que voilà, vous allez avoir votre secteur d'activité, enfin votre réseau de distribution avec les boutiques, les marchés de créateurs, etc. Mais en plus de ça, sur Internet, on peut atteindre une cible qui est intéressable, entre guillemets, puisque c'est France étrangers. Les étrangers, pour avoir fait maison et objet en début d'année, là, donc il y a 15 jours, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Américains qui viennent voir et qui... voilà, qui sont très attirés par cette démarche de créateurs, de savoir-faire français. Ça s'exporte très bien aujourd'hui, donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment proposer un site avec une offre très complète et de faire connaître les talents français à l'international. Bon, des petits témoignages de mes créateurs préférés. Donc après, l'offre qu'on propose, voilà, donc j'ai fait un petit sondage auprès de 3000 créateurs. Ah, j'ai eu une centaine de réponses seulement. Ah, ils n'aiment pas trop Internet. Hein. Donc l'idée, c'était de savoir exactement ce qui était attendu. Est-ce qu'ils attendaient justement une plateforme avec seulement des objets de décoration ou... l'accompagnement, le positionnement sur le marché, quelles sont les attentes des créateurs pour pouvoir y répondre au mieux. Donc là, en majorité, on a quand même eu comme retour que la plupart des créateurs veulent une sélection de qualité, donc ils veulent que leurs pièces soient identifiées à d'autres belles pièces. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils quittent certaines très grosses plateformes qui mélangent tout. Enfin, qui mélange tous les univers, parce qu'ils ne se retrouvent plus. Ils ne s'y retrouvent plus, et souvent on me dit, je veux vous rejoindre parce que y a des gens qui font des choses qui me ressemblent. Et l'autre question, c'était surtout sur la rémunération, puisque comment adapter un business et que les créateurs s'y retrouvent financièrement aussi. Donc commission sur les ventes, comme la plupart des plateformes, où derrière il y a des commissions qui s'ajoutent, des frais cachés, donc il y a une offre qui est assez peu claire là-dessus, ou forfait. Et il se trouve que je suis partie au début sur la commission, et c'était un peu compliqué, et depuis début d'année, j'ai transformé l'offre en forfait. C'est un forfait fixe, il n'y a pas d'à côté. Donc ça permet au créateur de pouvoir déjà budgéter par mois, c'est un forfait à 24 euros par mois avec un engagement de 6 mois, parce que bon, je vais lister après l'offre en détail, mais en gros on propose une page dédiée au créateur avec sa biographie, donc ça lui permet d'avoir sa mini boutique entre guillemets. Il référence en moyenne une vingtaine de créations, donc il n'y a pas de limite, mais comme c'est que des pièces uniques ou en série limitée, de toute manière l'objectif, c'est pas qu'un créateur ait 100 pièces et puis un autre à côté en ait 3, parce que l'objectif, c'est de les rendre visibles. Un accès avec un back office où ils peuvent se connecter, gérer leurs produits, etc. Et après, on fait un travail de communication avec des mises en avant dans nos newsletters, parce qu'on a de plus en plus d'abonnés, donc là une base de données de 10 000 personnes. On fait des posts sur Instagram, Facebook, et on diffuse aussi des interviews sur notre blog. Enfin, bon, on a une stratégie plutôt globale par rapport à chaque créateur qui nous rejoint. Bon, les tarifs, je vais vous les passer, mais bon, en gros, voilà, c'est un forfait à 24 euros par mois. Et s'ils joignent les deux plateformes, l'atelier des bijoux et l'atelier des créateurs, il y a un petit prix. Pour l'instant, c'est un peu le début, puisque ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé. Et l'idée, c'est de pouvoir faire grossir les plateformes, référencer un maximum de créateurs, et puis vendre un maximum d'objets, puisque si je fais mal mon boulot, et ben, ils ne restent pas chez moi. Et l'objectif, c'est qu'ils remboursent leur forfait tous les mois et qu'en plus de ça, ils puissent gagner en visibilité et augmenter leur, bah, leur revenu. Ce qui commence à pas mal fonctionner, puisque j'en ai qui me quittent. Donc ça prouve que j'ai bien fait mon travail pour l'instant. Même si c'est pas égal, puisque bah, en fonction des styles, effectivement, et de la sélection, tout le monde n'a pas les mêmes, le même succès. Mais bon, plus on aura de créateurs, plus il y aura de monde qui viendra sur le site, plus tout le monde aura la chance de vendre et de se faire connaître.
Ce que tu n'as pas dit aussi par rapport à l'accompagnement de l'atelier des créateurs et des autres plateformes, c'est que par rapport justement à la carrière de Marie-Laure dans le marketing digital, et ce qu'aiment bien les créateurs, c'est l'accompagnement vraiment humain derrière, ce qui n'est pas d'autres plateformes que je ne citerai pas, et où même parfois il y a des mails personnalisés à ces créateurs qui sont des astuces, par exemple... pourquoi parce que Marie-Laure fait des études en disant bon bah j'ai tant dans un panier et pourquoi il n'y a pas eu d'acte d'achat, et donc on donne des astuces aux créateurs pour leur dire bah ça t'aurais peut-être dû faire ça dans ta biographie, dans tes frais de livraison, etc. Donc c'est ça qui plaît aussi dans l'atelier des créateurs, c'est tout cette humanisation, etc. C'est ce qu'on nous a redit avec 9 de nos créateurs quand on était à Maison et Objet, et effectivement par rapport à des créateurs qui c'est comme ça, il faut plus vendre que d'autres, oui, et ça c'est je me souviens à la Maison et Objets, il y a une des créatrices, c'était à la fois c'était un peu inexplicable, même si c'était quand même une création assez unique en décoration murale, mais oui, elle a explosé les autres créateurs. Donc après il faut là pareil, c'est l'humain qui intervient quand on est avec 9 créateurs qui sont en train de se dire ah mais pourquoi lui il vend et pas moi, ben, tout ce travail là derrière pour dire bon ben voilà on n'est pas qu'un C'est un marketplace, ça permet de vendre, mais il y a comment on va vous accompagner dans votre stratégie de notoriété, c'est-à-dire quand vous avez juste une page Facebook ou Instagram ou rien du tout. Et donc là, on est là pour faire une communication pour vous, pour que les gens aillent sur vos pages et, ou dans vos boutiques comme vous en avez. Bon, en gros, voilà.
Très bien. Je vous remarque juste le micro.
Oui.
Donc. Quelques questions, des remarques. Allez-y. La règle, c'est on se présente pour l'enregistrement.
Cécile Luxco, du pays de l'Ardèche méridionale. Qu'est-ce qui marche bien, du coup, comme type de création? Est-ce qu'il y a une tendance en ce moment?
Ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est céramique. Après, pas mal les luminaires aussi. Il y a beaucoup de recherches sur les luminaires. Linge de maison. Après, globalement, il y a quand même des créateurs qui sortent du lot et qui vendent très régulièrement et d'autres pas du tout. Mais bon, après, ça, comme disait Clémence, on rebondit, on essaye d'orienter et d'aider les créateurs à se vendre aussi. Mais quand on leur demande 5 photos... pris à la lumière du jour, de qualité, et que, pour rebondir sur tout à l'heure et les photos, et que j'ai une photo prise de loin, floue, dans le noir, avec l'objet, coûte 650 €, et qu'il y a une phrase avec marqué statut, bah, ça passe pas, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que souvent, après, ils m'appellent en disant, ouais, je vends pas. J'ai dit, ouais, mais là, je suis désolée, mais moi, je suis pas magicienne, hein, je fais ce que je peux, mais il y a un moment, il faut aussi... Voilà, il faut aussi s'aider. Donc la réponse, elle est simple, hein, souvent, c'est que ceux qui savent communiquer un peu plus que les autres, qui ont bien mis en avant leurs produits, qui ont des photos propres et qualité, qui vont relayer le fait qu'ils soient en vente chez moi, sur leur réseau aussi, bah, ça change tout. Franchement, il y a une vraie différence entre ça et ceux qui vont juste se laisser porter, qui vont envoyer une photo, un mot, et puis qui attendent que ça se passe, quoi. Donc, même si nous on aide et qu'on conseille, parce que toutes les semaines ils ont le droit à comment améliorer vos ventes, c'est un travail de collaboration. Et généralement, quand je les ai au téléphone pour leur expliquer le concept, je leur dis voilà, moi je vous aide, je vous apporte des outils, je vous apporte du conseil, mais c'est un travail qu'on doit faire ensemble si vous voulez vraiment que ça fonctionne.
D'autres interventions ? Écoutez, je vous propose de rejoindre la salle. Vous restez avec nous, bien sûr. Donc, et je crois que j'ai oublié tout à l'heure, vous aviez proposé un petit film. On pourra peut-être le projeter à la fin. On va avoir le témoignage d'une créatrice, maintenant, du coin d'ailleurs, enfin d'une petite commune. Mais je vous laisse, Floriane, le soin de vous présenter.
Juste le temps de sortir des petites choses de mon sac.
Allez-y, allez-y.
Voilà. Et après, c'est où déjà ? Tout en bas. Cool, merci. Voilà. Donc, bonjour. Moi, je suis Floriane Toury et je suis artisan d'art. Je suis souffleuse de verre, pas très loin d'ici, à une commune qui s'appelle maintenant Boivre-la-Vallée depuis janvier dernier, anciennement La Vosseau, parce qu'on a fait un regroupement de communes. Voilà. Donc, pour me présenter un petit peu, j'ai fait différentes formations. J'ai commencé, en fait, enfin, si on commence vraiment au début, moi je me suis orientée plutôt vers un bac général scientifique parce que j'avais des bonnes notes et que du coup c'est sur quoi on va en général. Et je me suis rendu compte au fil justement de mon lycée que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai eu la chance d'être acceptée ensuite dans une mise à niveau en art appliqué. Parce qu'après, quand on est sur un cursus général, c'est compliqué de pouvoir retourner vers des choses un peu plus... alors là, c'est moins manuel, mais enfin voilà, vers les arts appliqués. Et ensuite, j'ai fait un BTS design produit. Donc là, c'est une formation qui m'a beaucoup plu, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup plus que de dessiner les objets, j'avais besoin de les fabriquer. Et donc comme j'avais découvert le verre à un festival où il y a des verriers qui font de la démonstration à Palau d'Alvire à côté de Perpignan, voilà, j'ai postulé dans une école qui forme au verre, donc le CERFAV dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est une formation très intéressante parce qu'après un bac plus 2 comme mon cursus, en fait on rentre et puis on va tester toutes les techniques. Ce qui fait que j'ai pu commencer à apprendre le vitrail, la décoration sur verre. Et j'ai vraiment fait le choix du soufflage de verre en connaissance de cause. Parce qu'au début, je suis rentrée là-bas. Je savais que le soufflage allait me plaire, mais je m'étais dit peut-être que je vais faire du vitrail, ce sera plus facile d'en vivre après. Enfin, d'en vivre, en tout cas, de pouvoir trouver une activité salariée. Moi, c'est le soufflage qui m'a plu. Donc j'ai dû agir autrement et forcément c'est pour ça que j'ai mis que c'était un choix de vie parce que c'est vraiment un choix de vie particulier. Moi en plus pour l'implantation, là je suis du coup à Boivre-la-Vallée, c'est un choix, c'est une petite commune. Mais je m'installe là-bas parce que mon conjoint est agriculteur, qu'il a des terres, qu'on ne peut pas bouger. Donc après, du coup, c'est moi qui me suis adaptée à ce lieu-là et parce que j'avais aussi envie de privilégier mon confort de vie et ne pas faire un métier, et ma vie familiale à côté. Donc j'ai différents savoir-faire qui me permettent de faire différentes choses. Donc du bijou avec, je travaille aussi le verre en fusion au chalumeau, ce qui me permet de réaliser des bijoux, des perles. Et après, le soufflage de verre me permet de réaliser des objets utilitaires, artistiques. Jusque-là, pour mon activité, le chalumeau, je le réalisais à mon domicile, donc à Benasset, maintenant Boivre-la-Vallée, donc une des communes du regroupement. Et pour le soufflage, je faisais de la location d'ateliers, parce qu'un atelier de soufflage, les artisans d'art, c'est toujours assez compliqué, c'est une activité où c'est assez compliqué d'en vivre. Les souffleurs de verre, on est encore un peu à part, parce que c'est une activité qui coûte très cher. Donc jusque-là, je faisais de la location d'ateliers. Il faut savoir qu'une journée de location, c'est 300 euros. Donc, plus le prix du verre qu'on utilise. Donc, il faut être sûr de sortir un certain nombre de pièces à un certain prix pour pouvoir les vendre. Le problème de la location, c'est qu'on dépend de l'atelier de quelqu'un d'autre et que, du coup, on ne progresse pas forcément non plus parce qu'on n'y va pas toutes les semaines parce que ça coûte assez cher. Donc un des deux souffleurs, en fait j'allais dans deux ateliers de personnes chez qui j'étais allée en stage et avec qui ça s'était bien passé, et un des deux partait à la retraite là en septembre dernier, donc j'ai fait le choix de me jeter dans le grand bain et d'installer l'atelier de soufflage à domicile. Donc voilà, là ça a été le projet de 2019 qui a été assez complet. Donc là c'est des photos de l'atelier à La Vosseau. Ça a été beaucoup de travail parce que il a fallu trouver un lieu avec une superficie pour un atelier de soufflage. Il faut quand même autour de 120 mètres carrés pour aussi avoir un espace boutique, hein, parce qu'avoir un atelier de soufflage et pas avoir d'espace boutique à côté, c'est quand même pas très intéressant parce que les gens viennent voir travailler et souvent ont envie d'acheter derrière. Après moi j'ai cherché ce lieu là à proximité de mon lieu de vie parce que les fours il faut que je les allume 1h30 avant de pouvoir travailler. Donc si l'atelier a une demi-heure, qu'est-ce que je fais entre temps? Je rentre à la maison, mais non, c'est un peu compliqué. Il faut trouver le bon lieu en location, en achat. Moi je préférais acheter parce que pour cette superficie là en location ça aurait été plus cher que finalement ce que j'ai trouvé. Et pour ce projet-là, j'ai lancé en mars dernier, puisqu'on était un peu aussi sur l'informatique et tout ça, une campagne de financement participatif pour m'aider dans l'achat des matériaux pour construire le four de fusion, parce qu'il faut savoir que du coup, j'ai acheté un certain nombre de matériel au souffleur qui partait à la retraite. Le four de fusion qui maintient, en fait, j'ai un four de fusion qui maintient le verre à température de travail, donc à 1100 degrés 24 heures sur 24. Celui-là, c'est un four qu'on ne peut pas déplacer, donc qu'on a dû construire sur place. Donc forcément, il fallait racheter des matériaux neufs en plus de ce que j'avais acheté au souffleur. Donc c'est ce à quoi, les personnes ont pu m'aider pendant le financement participatif. Pourquoi un atelier de soufflage ça coûte cher? Et c'est parce que ce four-là, il est en marche 24 heures sur 24, donc il maintient le verre à 1100 degrés. Il faut savoir qu'il y a des factures entre le gaz et l'électricité, parce que forcément il y a différents fours de 1000 euros par mois. C'est pour ça que la location coûte aussi cher aussi à la journée. Hein. Une location à la journée, si c'est 300 euros, c'est parce que le souffleur après lui ne peut pas produire pour lui, donc lui c'est une perte aussi. C'est pas du vol, c'est le coût vraiment d'un atelier de soufflage de verre. J'ai pas pu ouvrir. Mon objectif c'était d'ouvrir mi-juillet. J'étais un peu embêtée par la sous-régie, donc les changements de compteur. Donc finalement ça a été mi-août, donc j'ai un peu loupé l'été. Ça fait un petit mois et demi. Après, j'ai pas beaucoup pu travailler non plus la communication. Parce que ça a été beaucoup de travail. Là, actuellement, je travaille 7 jours sur 7, mais pas à l'atelier. J'ai gardé une activité salariée qui est quand même dans mon domaine, parce qu'à côté de Boivre-la-Vallée, à 10 km, il y a le musée du vitrail de Curzé-sur-Vaune, où là, en fait, je suis en charge notamment des ateliers d'animation avec les enfants, les adultes. Mais cette activité-là, elle est salariée, donc à mi-temps. Je travaille là-bas et 17h30, et puis après, le reste de la semaine, je suis tous les jours à l'atelier. Donc c'est assez compliqué de trouver le temps, et ben oui, hein, pour se vendre, enfin pour faire la communication. Donc moi j'ai prévu de faire ça plutôt cet hiver pour que l'été prochain les gens puissent me trouver et puis venir voir ce que je fais et venir acheter mes créations. Voilà. Après j'ai deux gammes de produits un peu différentes où je vais avoir une gamme fantasy qui est plutôt c'est celle que je vais plutôt vendre du coup en boutique à l'atelier, et c'est des choses que j'ai emmenées ici notamment sur des choses on va dire plus basiques, enfin des verres, des vases, du presse-papier, et puis assez abordable en termes de tarifs. Donc c'est des choses, enfin voilà, qui peuvent être ici et qui est plutôt que je vends plutôt à des particuliers. Et après, là actuellement, j'ai pas encore pu prendre le temps de plus m'y consacrer. Mais comme j'ai un BTS design produit, le but c'est d'avoir une autre typologie d'objets qui soit vraiment orienté design et là qui soit à destination plutôt de professionnels. Et puis l'objectif dans quelques années, c'est de participer aussi à Maisons et Objets pour pouvoir vendre du coup cette production-là, notamment sur du luminaire, des carafes. Voilà, et je crois que j'avais des photos dans ma clé. C'est quoi, à droite, c'est une sculpture que j'avais réalisée quand j'étais au CERFAV. J'avais fait un travail sur l'abeille, en fait. C'est des abeilles que j'ai réalisées au chalumeau, sur un vrai cadre de ruche. Donc là, j'avais réalisé autour de 300 abeilles. Alors là, il n'y en a que la moitié, parce que j'avais réalisé aussi une fenêtre sur laquelle il y avait un essaim. Donc voilà, c'était un travail. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne ressemble à une abeille et pas une guêpe, parce qu'en fait, c'est assez compliqué finalement. Ça ressemble vite à une guêpe en premier lieu. Et donc, au niveau du nombre de pièces aussi, c'était assez important. Par contre, je ne sais pas si là... Non, ça ne se voit pas. Comment on enlève du coup le truc de PowerPoint ? Je peux peut-être échappe là. Ah voilà. Là, par exemple, c'est une carafe que j'ai réalisée aussi quand j'étais au CERFAV et que là, j'avais vraiment le temps de penser à mes projets. c'est une carafe à déguster avec... pour mettre un spiritueux à déguster à deux. En fait, il y a un verre qui s'insère pas à l'intérieur, mais en dessous de la carafe. Donc là, on a l'impression qu'il est à l'intérieur, et un verre qui vient se poser au-dessus, ce qui fait qu'on a le produit complet. Donc là, c'était le prototype, et là maintenant, la pièce est chez un tourneur sur bois, parce que moi, ce que j'avais réalisé, c'était avec du liège, et donc pour pouvoir vraiment avoir des choses bien fini ensuite, et pour vous montrer des montées, du coup ça donnait ça avec les verres qui ont un effet de sablage sur le côté, et en fait quand on les penche ou on les met penchés, ça permet de doser une dose de spiritueux dite de bar, enfin voilà. Après, comme je suis à côté de la cité des tanneurs à Boivre-la-Vallée, j'ai travaillé avec une maroquinière sur des vases qui sont inspirés de la silhouette de femmes, donc ils sont tous différents, et donc ils sont resserrés à la taille par une ceinture en cuir. Donc là, on travaille en collaboration ensemble pour vraiment adapter après le vase à la ceinture. Voilà, là, c'est sur des choses un peu plus poussées que je fais. Et après, du bijou aussi. Enfin, voilà pour quelques autres photos de choses que j'avais pu que j'ai pu réaliser. Je pense que j'ai.
Il va y avoir des questions peut-être, et oui, vous pourrez y répondre. Moi, j'en ai une en tous les cas. Oui. Là, on voit une créatrice isolée. Est-ce qu'il y a un réseau départemental, régional ? Comment ça fonctionne dans l'Aix-Poitou-Charentes ?
Eh ben, c'est un peu compliqué, parce qu'avant on avait vraiment un réseau auquel s'adressait en Poitou-Charentes, qui était la mission régionale des métiers d'art. Ce réseau, avec le changement de région, n'existe plus. Donc voilà, c'est les chambres des métiers qui ont récupéré le budget pour pouvoir s'occuper de ces artisans d'art, parce que moi je suis attachée forcément à une chambre des métiers, pas à la chambre des commerces, hein, chambre des métiers de la Vienne. Le problème c'est qu'en fonction du département, on n'est pas tous logés à la même enseigne. En Charente, ils sont très bien lotis parce que du coup la chambre des métiers a mis quelqu'un en place pour s'occuper des métiers d'art. Dans la Vienne, on attend, mais je crois que le budget a été récupéré et puis que voilà, hein, ça va rester comme ça. Le problème, c'est que ils mettent des formations en place, enfin voilà, mais c'est que ces formations-là, pour nous, elles sont pas intéressantes. C'est que nous, on a un métier qui est bien particulier. On va pas du tout avoir les mêmes attentes qu'un boucher charcutier, un boulanger. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes types de métiers. C'est des métiers où c'est assez difficile d'en vivre pour nous et on a besoin d'être mis en valeur par des formations spécifiques, ce que faisait la mission. Après, il y a d'autres moyens de se former ou. Mais ils nous proposent ces choses-là qui ne sont pas adaptées, en tout cas, à nos métiers, à nous. Quoi.
D'accord. Peut-être Rodolphe, vous avez intervenu.
Rodolphe Houdayé, donc chambre de métier. Effectivement, il y avait la mission régionale métier d'art à l'époque du Poitou-Charentes qui a disparu.
Oui.
Il y a maintenant une convention avec le conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui cofinance certaines actions à hauteur de 50%. Donc effectivement, si les actions ne sont pas faites, il n'y a pas les cofinancements non plus. Il y a eu pour la Vienne un peu de mouvement de personnel et c'était notre chargée de communication qui s'occupait des métiers d'art qui est partie. Depuis il y a c'est tout récent, depuis le mois d'août on a un nouveau conseiller économique généraliste mais qui a en plus maintenant la casquette métiers d'art, donc il est arrivé depuis le mois d'août, donc c'est tout récent et il a passé 2 jours à Bordeaux justement pour se perfectionner sur l'accompagnement des artisans d'art dans le département. Donc j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, on soit en mesure de vous accompagner.
J'espère aussi après. Là, c'est des choses que j'ai déjà dites et qui sont entendues, mais en tout cas. Notamment, vous organisez un salon qui est à destination des artisans d'art à Châtellerault au moment de Noël. Sauf qu'il y a des personnes qui ne sont pas artisans d'art qui y participent et on va se positionner au niveau du bijou. Moi je réalise mes perles, donc mes créations ont un certain prix et il y a des personnes qui font seulement du montage au niveau du bijou sur ce salon là. Les visiteurs ils voient salon artisans d'art, enfin voilà, ils vont pas savoir faire la différence et du coup on est voilà.
Ça aussi c'est tout un débat alors. Le salon des métiers d'art de Châtellerault, il existe depuis 13 ou 14 ans, je crois, 2005, il me semble, la première édition, donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui est co-organisé par la Chambre et Grand Châtellerault. D'une manière plus générale, sur l'action métiers d'art, que ce soit avec la région ou avec d'autres collectivités comme Grand Châtellerault, on nous impose de ne pas travailler uniquement avec nos artisans, mais de l'ouvrir à des artistes.
Ce que j'avais dit quand j'avais participé à la fin de ce salon-là, c'est que d'accord, mais dans ce cas-là, ne l'appelez pas un salon métier d'art. Il faut changer le nom du salon, salon des créateurs, ou enfin voilà, parce que quand on appelle un salon salon des métiers d'art, on ne peut pas se retrouver avec des personnes qui ne sont pas métiers d'art dans ce salon-là. Enfin,
nous, c'est l'artisanat d'art, mais effectivement, le métier d'art, c'est un peu plus.
Artisanat d'art, c'est la même chose que métier d'art après. Hein.
Artisanat d'art, ce sont des professionnels inscrits au répertoire des métiers. On peut être dans les métiers d'art sans être inscrit au répertoire des métiers. Bon, après, c'est de la technique réglementaire. Hein,
mais. Moi, c'est des choses que le salon qu'il existe, c'est pas un problème, hein, c'est juste au niveau des noms et de bien différencier les métiers, parce que moi, sur mon type d'activité, je fais pas du tout la même chose que d'autres métiers, et le problème, c'est que d'être mise à côté de ces métiers-là, alors c'est de la création aussi, moi, je choisis vraiment bien les salons auxquels je participe, parce que sinon le visiteur ne va pas comprendre la différence en fait. Donc c'est pour ça que je vais plutôt me positionner à côté d'un céramiste qui réalise ses perles, lui aussi en verre, qui réalise ses perles et du coup qui va avoir un prix cohérent par rapport à ce qu'il produit à côté de mes produits à moi. Après chacun a sa chance et c'est de la création aussi, hein, le montage de bijoux. Et, c'est pas ce à quoi j'apporte de l'importance, c'est au niveau effectivement des termes qu'on emploie, parce que un salon des métiers d'art, c'est pour moi, il faut que ce soit des artisans d'art, sinon ça n'a pas beaucoup de sens.
Est-ce que vous pouvez, tu pourras intervenir, Jean-Rodolphe, mais est-ce que vous pourriez intervenir, nous dire votre point de vue, les deux groupes qui sont intervenus tout à l'heure, et peut-être aussi élargir sur la sociologie, et je reviens vers toi après, sur la sociologie des créateurs, parce qu'il y a un sociologue, alors j'ai recherché le nom, c'est un Parisien, qui avait travaillé sur le fait même de gens très qualifiés qui tout d'un coup changent d'orientation complètement. Et ça, il y a un phénomène intéressant, mais je ne sais pas si vous le constatez.
Oui, sur la question, pour rejoindre ce que disait Floriane, ce qui est attendu de la part des professionnels, c'est qu'ils puissent être avec leur père, et en revenant sur cette fameuse définition de ce qu'est un métier d'art, qu'il y ait cet aspect de transformation de la matière qui est lourd, cher, particulièrement dans le soufflage, que ces personnes-là soient mises sur un pied d'égalité, et de fait quand on a du montage de bijoux ou des revendeurs, parce que ça peut arriver aussi sur des marchés, hein, bah voilà, on est sur une distorsion qui est très désagréable. Et voilà. Pour la sociologie, on constate que ce sont des jeunes, mais de plus en plus jeunes. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la mission métier d'art de la région Grand Est, qui disait, bah, du coup,
avec Christophe Delaven.
Ouais, Christophe Delaven, là, sûr, qui s'occupe notamment du CERFAV. Ce sont des personnes de plus en plus jeunes et de plus en plus qualifiées. Donc, de la reconversion, mais sans avoir d'expérience professionnelle, finalement. C'est en sortant, sorti d'un cursus scientifique ou sciences humaines, ou voilà. Changement de cap, et on repart à l'école ou dans un atelier pour apprendre. Et puis, du coup, ce sont des personnes qui vont prendre le temps. Donc, il faut en tenir compte. Enfin, il faut vraiment en tenir compte. Ils vont prendre le temps de développer leur activité. Ils ne vont pas être à courir, etc. Donc il faut s'adapter à ça. Et puis, des personnes qui ont énormément de compétences sur la com, sur la gestion, etc. Donc super armées, entre guillemets, pour démarrer. Maintenant, il faut maîtriser le savoir-faire et ça prend un peu de temps.
Moi, de mon expérience, c'est vrai que les créateurs n'aiment pas qu'on mélange les genres, ouais. Moi, ça s'appelle l'atelier des créateurs, c'est très vague, hein, donc il y a de tout. Et c'est vrai que souvent, on a pu me faire la remarque en disant oui, mais machin, elle n'est pas inscrite aux ateliers d'art de France. J'ai dit oui, très bien, mais le but, c'est de valoriser du savoir-faire. Et après, pour le reste, je comprends du coup la remarque en disant qu'effectivement, s'il y a un salon qui s'appelle comme ça, mettre des gens qui font de l'assemblage derrière, c'est pas terrible. Et sur la sociologie, moi, c'est un peu différent. J'ai plutôt une moyenne d'âge qui est au-dessus de 45 ans, je pense. J'ai quelques très jeunes qui se lancent, qui sortent d'école de design, qui sortent de formation et qui ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Malgré le fait de maîtriser les outils informatiques et les réseaux sociaux, ils viennent quand même me voir pour ça, parce qu'ils veulent faire partie d'une communauté, ils veulent être accompagnés, ils veulent pas se sentir seuls. Et pas mal de vieux, entre guillemets, hein, qui ont déjà de l'expérience professionnelle, qui ont déjà fait de la création et qui veulent vraiment en vivre à un moment. Donc c'est assez variable en ce qui me concerne.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, une question que vous voulez pour éclairer peut-être. Le CERFAV, c'est quoi? Ça se situe où? Voilà.
Le CERFAV, c'est le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. C'est un centre de formation pour le verre à côté de Nancy, à 40 km de Nancy.
Il y a dans la zone de Baccarat un peu, non?
Enfin, Dôme. Tout à fait. C'est à côté de Dôme.
D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci Floriane, et on va passer au quatrième témoignage, qui là élargit peut-être un peu le propos, d'ailleurs, à l'artisanat en général. Hein. Je vous laisse le soin de... Oui, oui, bah, très bien. En plus, vous êtes de Poitiers, donc c'est un organisme sur... Non, vous, peut-être pas, mais l'organisme que vous dirigez se trouve sur Poitiers. Donc, et pour la Vienne et les Deux-Sèvres, voilà, le territoire qui était cher, Céline. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter et de...
Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Noémie Katamna. Je suis responsable pour la maison des Compagnons du Devoir sur Poitiers depuis peu, parce qu'à la base, je suis plombier chauffagiste. Donc j'étais plombier jusque-là. Donc après avoir réalisé mon tour de France chez les Compagnons du Devoir, j'ai pris cette mission donc, de responsable pour la maison de Poitiers. Je vais parler d'artisanat aussi, mais alors c'est vrai que ça ne va pas être forcément que de l'artisanat d'art. Oui, non, c'est pas grave. C'est un peu plus vaste. Donc, déjà, les Compagnons du Devoir, il y a peut-être quelques explications à faire avant de rentrer dans le précis. Donc, c'est une association qui a quand même quelques dizaines d'années maintenant, qui a pour but de former des adultes, mais surtout des jeunes, dans un métier. Et de transmettre des savoir-être et des savoir-faire. Donc, le but est de permettre à chaque jeune de s'épanouir et de devenir heureux grâce à ce métier-là. Et donc, ça se passe sur quelques années, qu'on appelle le Tour de France. On a plusieurs métiers, ça englobe à peu près une trentaine de métiers, qui est dans six filières différentes. Donc, excusez-moi, j'ai pas ramener de diapos, donc je vais le faire tout à l'oral. Donc les six filières que nous proposons chez les Compagnons du Devoir, nous avons la métallurgie et l'industrie, qui englobent les carrossiers, les chaudronniers, les électrotechniciens, les fondeurs, les mécaniciens et les mécaniciens de précision. Donc rien que dans cette filière-là, on a des métiers d'art et des métiers qui n'ont rien à voir avec l'art, mais qui sont aussi de l'artisanat. Ensuite, nous avons la filière des métiers du vivant, qui englobe les jardiniers paysagistes et les maréchaux ferrants. Donc, je ne vous cache pas qu'on a plus de paysagistes que de maréchaux ferrants. Dans les métiers du goût, pour la troisième filière, nous avons des jeunes en boulangerie, en charcuterie, en fromagerie, en pâtisserie, beaucoup, en tonnellerie et depuis peu aussi des vignerons. Dans la quatrième filière, qui est aménagement et finition, nous avons des carreleurs, des ébénistes, des menuisiers, des peintres, des plâtriers plaquistes et des soliers moquettistes. Pour la cinquième, nous avons donc dans le bâtiment des charpentiers, couvreurs, maçons, plombiers, serruriers et tailleurs de pierre. Et pour la dernière, dans les matériaux souples, cordonniers bottiers ou podo-orthésistes, pardon, des maroquiniers, des tapissiers en décor ou en siège et des celliers garnisseurs. Donc voilà pour ce qui est des différents métiers qu'on accueille chez les Compagnons. C'est pas quelque chose de fixe, hein. Il y a des très vieux métiers et des très récents. Voilà, ça bouge à peu près toutes les quelques années, on accueille de nouveaux métiers. Voilà, c'est juste une histoire de mise en place et de formation qu'on peut proposer. Donc pour ce qui est des différents publics qu'on accueille chez les Compagnons du Devoir, il y a différentes, on va dire, différentes formules. Le parcours classique, ça va être un jeune en fin de troisième, donc 14, 15, 16 ans, qui a eu son brevet et qui décide de ne pas poursuivre dans un lycée général ou dans un CFA, on va dire, classique. Donc ce jeune se forme 2 ans chez nous en apprentissage, donc il n'est pas encore sur le Tour de France, il se forme 2 ans chez nous. Et ensuite, au terme de son apprentissage, donc une fois que le jeune a eu son CAP, peut décider s'il le souhaite de partir sur le Tour de France. Donc pour revenir sur, alors ça c'est la première formule. La deuxième formule, ça peut être un jeune qui a déjà un bac ou un niveau au-dessus de troisième, donc au-dessus du brevet des collèges, mais qui n'a rien à voir avec le métier qu'il a envie de faire. Par exemple, un bac scientifique et le jeune veut devenir maçon. On accueille aussi cette personne-là et ce jeune partira plus rapidement sur le Tour de France. Forcément, il est un peu plus âgé, donc on accélère un petit peu le processus. Et le quatrième parcours, ça va être un jeune qui a, par exemple, déjà un diplôme dans le métier, mais qui souhaite aller plus loin dans le perfectionnement de ce métier. Donc on va l'accueillir quand même, même si, bien sûr, il a déjà un CAP ou même un BP, peu importe. On va l'accueillir aussi et essayer d'aller encore plus loin dans son apprentissage. Et on accueille aussi des adultes quand même. Alors c'est un moins grand public, mais on accueille tout à fait des adultes pour de la formation continue. Pour ce qui est de notre façon de faire chez les compagnons, donc il y a trois gros piliers chez les compagnons du devoir. Ça va être le métier tout d'abord. Donc il faut forcément que le jeune soit intéressé par le métier, qu'il commence et qu'il apprenne à aimer son métier. Il y a aussi la communauté, parce que pour nous c'est très important de vivre en communauté. Donc tous les jeunes vivent ensemble dans des maisons, donc on a des maisons un petit peu partout en France. Comme je disais, moi je viens d'Alsace, là je me retrouve ici, mais je suis passée par plein d'autres villes en France. Donc la communauté, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça englobe beaucoup de valeurs, la fraternité, la générosité, le partage, enfin ce qui peut paraître logique à tout le monde, mais je le précise. Et le voyage, du coup, donc on vit en communauté, mais on ne reste pas fixe parce que effectivement, tous les ans ou deux fois par an, on change de région, de ville, d'entreprise. Donc voilà, c'est un choix de vie aussi, comme on a entendu tout à l'heure. Effectivement, c'est voilà, les jeunes quittent leur famille pour en trouver une deuxième, on va dire, un peu plus grosse. Ensuite, on a aussi un point qui nous est cher et qui fait que les compagnons sont encore présents aujourd'hui, parce que c'est quand même pas tout récent, c'est la transmission. Parce que forcément, nos métiers, alors pour ce qui est des plus vieux métiers, il y a beaucoup de compétences qui sont gardées et qu'on a encore aujourd'hui grâce à la transmission de génération en génération entre nous. C'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on a terminé son Tour de France au bout de 5-6 ans qu'on est compagnon et c'est terminé. On est compagnon pour la vie, et ce qui veut dire que très régulièrement, il y a des compagnons de tous âges qui viennent dans nos maisons former nos jeunes. Donc par exemple, je ne sais pas, un charpentier qui est très à l'aise sur le dessin de charpente va venir tout un week-end avec les charpentiers travailler sur le dessin, par exemple. Ça peut être tout autre chose. Ça peut être autant technologique que pratique. Voilà. Et donc, il y a ce côté métier, ce lien entre les jeunes et les anciens. C'est le terme qu'on utilise pour les compagnons qui ont terminé le Tour de France. Donc, les jeunes et les anciens se voient régulièrement sur ce côté métier qui est très important, mais aussi pour toute autre chose, quoi, pour de la culture générale, pour juste manger ensemble. Enfin voilà, c'est aussi un milieu où vraiment les âges n'ont pas vraiment d'importance. Tout le monde se tutoie, il y a pas de voilà, c'est très familial, quoi, en fait, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Pardon, j'étais pas trop préparée comme tout le monde pour cette intervention.
Non, mais on peut laisser la place à des questions, puis vous pourrez rebondir
oui,
si vous voulez.
Oui,
allez-y, si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas.
Je veux bien écouter des questions. D'accord. Si vous en avez, sinon je continue.
Ben, moi, j'aimerais faire mention d'une expérience qui s'est passée dans une entreprise, je ne sais pas si c'est Christine ou Céline qui veulent en parler, sur la nuit de la créativité à CDA, en quelques mots, peut-être parce que ça rejoint le questionnement qu'on peut avoir, c'est-à-dire, vous parliez d'industrie, il peut y avoir aussi un lien art et industrie. Tu veux en dire un mot?
Alors, la nuitée de la créativité chez Jean-Marc Neveu, CDA Développement, à Châtellerault. Mm-hmm. C'est développé dans le cadre notamment de l'Agence de développement de l'innovation, qui a mis en place un réseau des innovateurs, ambassadeurs de l'innovation, mm-hmm, en Nouvelle-Aquitaine. Bon, excusez-moi, mais ça me reprend. Et donc, Jean-Marc Neveu, qui est on va dire un chef d'entreprise assez atypique, puisque dans son entreprise, il réalise un certain nombre d'événements qui permettent à lui-même de faire évoluer son entreprise, non seulement dans le cadre du management, dans le cadre aussi de relier les arts et l'industrie, par exemple. Donc il y a eu plusieurs expériences qui ont été réalisées, notamment autour de la musique. Donc Jeunesse de France, Jeunesse musicale de France est intervenue pour au sein même de l'entreprise, après avoir été mis en contact notamment par la plateforme Créativité et Territoire de l'espace Mendès France. Et ça a donné lieu donc à un concert avec quatre jeunes artistes au sein même de l'entreprise. Et alors dédié à la fois pour les salariés de l'entreprise, mais aussi les salariés des autres entreprises de la zone. Ensuite, il y a eu tout un travail aussi conduit par un jeune qui avait fait une formation histoire de l'art et un photographe autour des métiers au sein même de l'entreprise, et un travail qui a été conduit avec les salariés et qui a donné notamment naissance à une exposition de photos qui a mis en valeur les métiers et aussi la réalisation d'une petite revue qui ensuite peut être achetée. C'est surtout pour valoriser ce travail, et ça a permis aux salariés de reconquérir une sorte de fierté par rapport à leur métier. Ça, c'était très important, et en même temps d'être créatif également. Une autre expérience, d'un seul coup je ne me souviens plus. Le projet Plastil avec une structure d'insertion qui se situe pas très loin de l'entreprise. Donc Jean-Marc Neveu est plutôt axé sur le développement durable. Et donc il a rencontré aussi cette structure d'insertion qui a quand même aussi quelques difficultés à pouvoir recycler les vêtements qu'il récupère au fil des années, et qui sont envoyés plutôt dans des pays étrangers, et donc ça a un coût aussi en termes de développement durable. Et donc il a travaillé avec eux, puisque son souci c'était aussi comment réduire aussi l'utilisation du plastique. On entend beaucoup parler actuellement, et donc d'introduire du textile, et qui a donné naissance à un nouveau produit qui s'appelle Plastil et qui a été reconnu par notamment la région Nouvelle-Aquitaine qui a financé pour cette expérimentation. Donc là, ça va continuer pour aller un peu plus loin et fabriquer des objets qui pourront eux-mêmes être recyclés.
Okay, très bien. Tout cela, cette expérience, pour vous interroger peut-être les uns et les autres sur ce lien entre art, industrie, art et artisanat, et on rejoint la question de l'artisanat d'art. Enfin, quelque part, voyez, j'essaie de reboucler de la boucle et de la déboucler. Par exemple, sur Strasbourg, il y a une action qui a été menée autour de la notion de l'industrie magnifique, c'est-à-dire comment redonner ce côté art, parce qu'au fond, c'était ça au départ. Et en région Hauts-de-France aussi, il y a toute une action à Dunkerque qui a été menée avec le FRAC sur l'industrie magnifique. Donc, je ne sais pas comment vous réagissez à ça, cette question.
C'est vrai que nos jeunes, participons régulièrement à ce genre de concours ou d'événements qu'il peut y avoir sur justement la beauté et puis le lien entre l'artisanat. Et c'est vrai que j'en ai pas tout à fait parlé, mais il y a quand même deux étapes pour un jeune qui fait le tour de France où on va faire appel particulièrement à son imagination. Effectivement, au tout début, lorsque le jeune veut partir sur le Tour de France, on lui demande de réaliser un projet en guise de... pour montrer sa motivation pour aller sur le Tour de France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc n'importe quel métier que ce soit, c'est un jeune qui va lui-même réfléchir à un projet, le mettre en place, faire son devis, ses plans, etc., aller jusqu'au bout du projet, jusqu'à le réaliser, et le présenter à tout le monde, pour pouvoir commencer son Tour de France. Et très souvent, c'est effectivement des pièces artistiques. Même chez les plombiers, on arrive à faire des choses artistiques. Et à la fin du Tour de France, donc là, on a déjà quand même quelques années de métier, donc on a plus de compétences. Forcément, on a acquis plus de compétences. Donc, pour devenir compagnon, effectivement, il y a également un travail à réaliser qu'on a souvent appelé chef-d'œuvre. Après, je n'oserais peut-être pas dire que c'est toujours des chefs-d'œuvre parce que c'est réalisé en quelques mois. Un vrai chef-d'œuvre, ça dure des années, mais le terme est quand même resté. Et effectivement, c'est également une pièce imaginée par le jeune et réalisé entièrement et très souvent donc les maisons de compagnons sont accessibles aux gens et c'est vrai que souvent on s'en rend plus compte mais quand les jeunes rentrent les gens rentrent dans nos maisons ils sont des fois un petit peu étonnés de voir toutes ces œuvres là. Bon, c'est vrai que quand ça fait des années qu'on vit dedans on s'y habitue malheureusement mais c'est vrai qu'effectivement il y a quand même aussi ces étapes là et j'ai pas parlé non plus du rythme que nous avons chez les compagnons. Pareil, c'est une habitude maintenant, mais voilà, donc chaque jeune est embauché dans une entreprise selon son métier, donc ça peut le jeune peut très bien travailler chez un artisan tout seul comme dans une entreprise où il y a 50, 100, 200 salariés. En fait, ça dépend de la volonté du jeune, de la volonté aussi des entreprises, quel genre de jeune ils recherchent.
Est-ce que j'étais en train de dire le rythme, veut dire le rythme.
Pardon. Donc voilà, donc chaque jeune part travailler de son côté. Donc on est tous dans la même maison. Chaque jeune part travailler le matin dans son entreprise et le soir, donc on mange tous ensemble. Donc on a une salle à manger dans chaque maison de compagnon où on se retrouve tous les soirs pour manger ensemble. Et après ce repas, tout le monde va encore en salle de cours, donc on dit en salle de cours, donc dans une salle où tous les jeunes se retrouvent de 20h à 22h, tous les charpentiers se retrouvent ensemble, tous les maçons ensemble, tous les couvreurs ensemble, et travaillent donc de 20h à 22h justement sur, ça peut être un projet qu'ils ont envie de monter ensemble pour l'année, ça peut être plutôt personnel dans un apprentissage qu'une personne a envie de perfectionner, c'est voilà donc tous les effectivement c'est vrai que c'est un rythme qui est un peu qui est peut-être un petit peu sport au moins pour le début parce que c'est ça tous les soirs donc chaque jeune est en autonomie dans une salle de cours pour avancer ses compétences et également le samedi aussi donc tout à l'heure on parlait d'une formation pour les souffleurs de verre qui coûte relativement cher c'est vrai que chez nous le jeune mis à part son logement sa nourriture à payer, toutes les formations sont gratuites. Enfin, le jeune ne dépense aucun euro pour avoir de la matière. Tout ça, c'est géré au niveau de l'association, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un atout que tout le monde n'a pas forcément. Donc, chaque jeune a le droit de s'imaginer un projet, de le dessiner, de le présenter et de le réaliser de A à Z, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un privilège, ouais.
Merci pour cette précision. Je crois que c'est important, ça éclaire les choses. Est-ce que vous pouvez dire quelques renseignements très concrets ? La maison sur Poitiers se trouve où ? Quelle est la cartographie en France des maisons ?
Donc, elle est rue du Porto, c'est vers la demi-lune. Si je ne me trompe pas, c'est sur le site de la maison de la formation. Donc, anciennement, il y a 3 ans, elle était plus dans le centre-ville. On s'est déplacé. Et donc, on est maintenant sur le site de la maison de la formation. Pour ce qui est de la cartographie au niveau de la France, mais ça m'amènera à un autre sujet aussi, on a des maisons sur à peu près 57 villes en France, donc ça représente pas mal de maisons, et on a plus que ça. En fait, on a deux sites différents. On a des maisons où il y a des centres de formation, comme à Poitiers, donc nous c'est un centre de formation uniquement là pour les maçons, et on a des sites de passage. Ce qu'on appelle des sites de passage, ça va être une maison qui accueille des jeunes sur le Tour de France mais qui n'est pas centre de formation. On a 58 maisons CFA en France, mais après à côté de ça on a 183 sites de passage, donc ça représente quand même c'est assez vaste. Et donc oui, j'ai quelques chiffres, c'est vrai que je les ai pas dit tout à l'heure, mais il y a à peu près 10 000 jeunes qui sont formés par an, donc dans la trentaine de métiers qu'on propose, et il y a 1200 salariés, dont la moitié qui sont formateurs pour nos jeunes. Donc c'est vrai que j'ai commencé en disant que j'ai commencé par la plomberie et que maintenant je suis responsable de la maison de Poitiers, mais il y a également des jeunes qui terminent leur Tour de France qui deviennent formateurs pour les jeunes voilà, je parlais de transmission, ça en fait partie en fait, c'est toute une logique quoi. J'ai pas parlé non plus du voyage. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on incite les jeunes à partir à l'étranger. Donc jusqu'il y a quelques années, on faisait un tour de France qui était voilà plutôt basé sur la France. Maintenant, on va pas tarder à appeler ça tour du monde, je pense, parce que effectivement, on a la possibilité, voire même le conseil, de partir à l'étranger au moins un an sur son tour de France. Donc, pour ma part, par exemple, j'étais en Irlande, mais il y a des jeunes qui partent, c'est très ouvert, il n'y a pas de limite. Et on a même commencé à ouvrir des maisons de compagnons à l'étranger aussi. Par exemple, en Suisse, on a 7 maisons de compagnons. En Angleterre, alors on n'a pas forcément une maison, mais on a quand même des sites, des lieux de passage, on va dire. En Allemagne, on en a aussi. Enfin, voilà, on s'ouvre de plus en plus. Ben, on suit la société en général. Hein. De toute façon, tout le monde bouge de plus en plus. Donc forcément, on suit. On suit autant au niveau de ce que les jeunes veulent, mais aussi au niveau des métiers. Parce que je parlais d'anciens et de transmission, mais on a également des instituts de métiers. Donc on a 16 instituts de métiers qui sont des groupes de personnes qui travaillent sur justement l'innovation, la technologie de chaque métier et l'anticipation pour plus tard. Parce que forcément, on est bien obligé de suivre tout ce qui se passe et les métiers bougent très vite. Donc c'est un apprentissage assez global en fait, parce qu'on a autant les anciens qui viennent nous apprendre les vieilles techniques qu'ils avaient eux il y a 40-50 ans, et autant on apprend aussi ce qui est tout nouveau et ce qui est en train de se faire. Donc c'est assez, assez vaste et assez intéressant pour tous les métiers. Le Tour de France, donc ça va dépendre aussi du jeune. Hein. Chaque jeune fait un peu le Tour de France qu'il souhaite, mais globalement, donc si on repart sur le cursus de base, donc une fois les 2 ans d'apprentissage du jeune après le collège, ça va être 5-6 ans de Tour. 5-6 ans de Tour de France, et après ces années-là, il sera donc soit formateur, soit responsable d'une maison de compagnon. Donc ça, c'est encore quelques années. Donc du début de l'apprentissage jusqu'à la fin de la vie dans les maisons de compagnons, il se passe une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais.
Et après, en termes, parce que je sais pour avoir visité la maison des compagnons à Paris, et par exemple, c'est vrai que les travaux de rénovation, ils sont faits aussi par vous, par les différents corps de métier dans certaines maisons, et même aussi au niveau des tâches ménagères, etc., la cuisine dans certaines maisons, c'est vrai que vous êtes très impliqués.
Mais forcément, oui, vu qu'on a des menuisiers, quand il y a une armoire cassée, forcément, c'est plus facile pour la réparer. Mais bon, alors c'est vrai qu'il y a anciennement, les maisons étaient même fabriquées entièrement par les compagnons. Donc moi, j'ai commencé à Saint-Étienne, par exemple, la maison a entièrement été faite par des compagnons à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué de faire de vrais travaux de notre part, parce que forcément, il y a des histoires de décennales. Voilà, ça doit être des entreprises qui font. Mais pour ce qui est des petits travaux, oui, quand même, on se débrouille pour le faire. Après, les tâches ménagères dans la maison, oui, on peut rentrer un petit peu dans le détail, mais effectivement, les jeunes dans les maisons sont amenés à sortir les poubelles, à faire la vaisselle. Enfin, on essaye de responsabiliser les jeunes, forcément, puisque le but, c'est de devenir un homme ou une femme de métier, mais aussi de savoir se débrouiller, d'être responsable, autonome. Voilà, c'est notre but. Donc forcément, ça nous tient aussi à cœur que chaque jeune doit se sentir chez lui dans une maison, et chez soi, ben, on fait la vaisselle et on sort les poubelles.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, allez-y.
Après les 10 ans, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, alors c'est vrai que comme je le dis, ça peut faire un peu peur, mais en soi, si on regarde bien, c'est, enfin, quelqu'un qui va à la fac, qui fait un master ou j'en sais rien, il fait à peu près le même nombre d'années d'études, sauf que à la différence, c'est que nous, on ne sera pas 5-6 ans dans la même fac, c'est que pendant 5-6 ans, on aura visité toute la France. Donc pour nous, ça passe très très vite en fait. Une année, en un clin d'œil, c'est passé, donc les 5-6 années aussi. Mais une fois que cette personne est compagnon du devoir et a été formateur pendant 2 ans ou directeur d'une maison, alors un compagnon sur deux ouvre son entreprise. En général, les autres sont embauchés par ceux qui ont monté l'entreprise. et après ceux-là prennent des jeunes dans leurs entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme réseau. C'est grâce à ça aussi. Enfin, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est grâce aux entreprises que le compagnonnage peut fonctionner, parce que c'est vu que les entreprises jouent le jeu et savent que nos jeunes tournent tous les ans, ça fait un espèce de move tous les ans. Voilà, il y a 10 charpentiers qui partent de Strasbourg, ben, y en a 10 autres qui arrivent, et puis ça tourne comme ça régulièrement, et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a aussi des compagnons qui changent complètement de branche, mais quand même, c'est plus rare. Enfin, en général, ils retournent sur le chantier, ils montrent leurs entreprises. Et voilà, par exemple, moi, je viens de prendre cette mission. Juste avant moi, c'était une compagnon maçon qui avait la mission pendant 3 ans. Et là, elle est redescendue à Nîmes et elle est en train de monter son entreprise de maçonnerie. Voilà, c'est un exemple, mais c'est souvent ça, en général.
Juste, je voulais avoir une précision sur la proportion du coup homme-femme sur ces métiers manuels.
Là, je n'ai pas les chiffres vraiment en tête, mais de ce que j'ai vu, donc, je pense qu'on a à peu près entre 5 et 10% de femmes sur le Tour de France. Ça augmente d'année en année. Hein. Après, ça va vraiment dépendre des métiers. Par exemple, en maroquinerie ou en cordonnerie, botterie. Heureusement qu'il y a les filles, parce qu'elles sont majoritaires sur ce genre de métier. Après, en maçonnerie, charpente, plomberie, forcément beaucoup moins. Mais ça bouge, c'est en train d'augmenter. En menuiserie, y a pas, je pense que c'est pas loin de 20% de filles, donc ça va dépendre des métiers. Voilà. En ce moment, on va dire la mode, c'est un peu la pâtisserie. Je pense que c'est grâce à Top Chef et ce genre d'émission, mais du coup, on a beaucoup de filles aussi en pâtisserie, beaucoup de jeunes en général qui viennent pour faire de la pâtisserie, mais ça va dépendre des métiers. Mais globalement, entre 5 et 10% de filles sur le compagnonnage, sachant que ça fait qu'une quinzaine d'années qu'il y a des filles chez les compagnons, donc on arrive quand même assez en force, je trouve.
On a un thème qui nous intéresse aussi, c'est les jeunes et l'entrepreneuriat dans les quartiers. Est-ce qu'il y a des jeunes des quartiers qui viennent vers vous ?
Alors, la spécificité de la maison de Poitiers, en plus, c'est qu'on n'est pas tout seul sur le site. C'est qu'on a effectivement la Marage, qui est une association qui a aussi un public de jeunes, soit en recherche d'entreprise ou en recherche de formation. Il y a aussi un foyer de jeunes travailleurs et on est sur le site de la maison de la formation. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs publics qui sont mélangés et c'est bien, mais c'est pas le cas pour la plupart de nos maisons. Hein. C'est vrai que pour la plupart, on est vraiment des compagnons dans la maison. Après, comme on intervient sur plusieurs événements, on est amené à croiser des jeunes régulièrement, intervenir dans des lycées, les inviter chez nous. Voilà, donc on en croise.
Vous avez parlé de la création d'entreprise. Qu'est-ce qu'il en est pour la reprise d'entreprise, parce que c'est un enjeu assez important actuellement dans nos territoires.
Alors, je ne pense pas que je vais avoir une réponse précise à votre question. Je suis désolée, mais effectivement, il y a aussi énormément de gens qui reprennent des entreprises. C'est vrai, quand j'ai dit création, mais ça peut être des rachats d'entreprises. Mais là, je ne vais pas avoir les chiffres à vous donner. Je suis désolée, mais je me renseignerai.
Merci. Peut-être signaler aussi qu'il existe, pour comprendre l'histoire du compagnonnage, un musée à Tours, je crois, mais il y en a peut-être ailleurs.
Tout à fait.
Voilà, oui. Qui est ouvert au public. Hein.
Oui.
Donc,
oui, oui.
Si vous voulez en savoir.
À Tours, il y a un musée, et effectivement. Et sur Troyes, il y a aussi la maison de Loussier de la Pensée Ouvrière, qui ne parle pas seulement des compagnons du devoir, mais où on est aussi pas mal présent. Donc, c'est vrai. Et puis, on fait des portes ouvertes régulièrement. Enfin, voilà quoi. Tout le monde est bienvenu dans une maison si ça l'intéresse à n'importe quel moment.
Ok. Merci en tout cas. Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont intervenus, qui ont assisté. Simplement, juste un rappel, c'est les 8e journées d'automne, les 16, 17 et 18 octobre, où là, il y a toute une série de tables rondes sur des sujets les plus divers. Ça va de l'entrepreneuriat dans les quartiers, au tourisme industriel, à la crise des gilets jaunes au regard de la désindustrialisation de la France pendant 40 ans. Enfin voilà, c'est très varié. Vous avez le programme sur le site emf.fr. En tous les cas, merci et bonne soirée à tous et à toutes. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'avais oublié. Bah oui, une minute de vidéo, allons-y.
Alors, c'est une vidéo qu'on a réalisée pendant un Fab Lab éphémère.
C'est une vidéo qu'un photographe, un vidéaste de chez nous, a réalisée pendant une semaine de Fab Lab éphémère. Donc les métiers d'art découvrent, là c'était vraiment la toute première fois, les outils numériques. Merci. Je précise, c'était avec le Glass Fab Lab, donc l'animateur du Fab Lab du CERFAV dont Floriane vient.